Bienvenue chez Perspectives de médiation, le podcast dédié à la médiation et à la résolution des conflits. Je suis Pascal Gimperli, médiateur basé en Suisse. Avec nous, selon les épisodes, Joëlle Dunoyer, rédactrice en chef de la revue Intermédiaire, et Christelle Schirmer, membre de la rédaction.
À travers nos émissions, nous contribuons au développement de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits.
Vous allez découvrir des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des échanges et discussions variés avec des invités de marque.
Nous vous proposons ces épisodes en partenariat avec la revue Intermédiaire, un semestriel en version papier et numérique, spécialisé en prévention et gestion des conflits.
Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.
Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour partager vos avis ou pour poser des questions.
Allons-y!
Bonjour tout le monde, bienvenue chez Perspectives de médiation. Alors, c'est...
Pascal, bonjour Hélène.
Bonjour Christelle, bonjour Pascal.
Bonjour. Donc, c'est le troisième épisode que nous faisons avec Hélène Dekovacic, qui est avocate, ancien juge et médiatrice au Québec. Nous avons déjà parlé de la médiation au Canada et spécifiquement au Québec, et puis aussi de la médiation en tant que juge, avec les systèmes particuliers, super intéressants que vous avez. Donc, si jamais, allez-y pour écouter les autres épisodes aussi. Et puis aujourd'hui, Hélène, on va parler de la co-médiation. Et puis dans l'autre épisode, tu disais qu'il y avait, alors j'espère que maintenant ma mémoire ne me fait pas défaut, mais la chambre d'expropriation immobilière, vous siégez à deux. Donc c'était un peu une sorte d'initiation à la co-médiation, si je t'ai bien compris, ou en tout cas ça t'a donné.
Ouais, en fait, c'est comme en 94, quand j'ai fondé mon bureau, Groupe Options Médiation. Je m'avais fondée avec une collègue qui était notaire. Moi, j'étais avocate, je suis toujours avocate. Et on faisait de la co-médiation multidisciplinaire. Puis, on avait ouvert également nos processus à la co-médiation multidisciplinaire avec des psychologues, des travailleurs sociaux, des ingénieurs, des évaluateurs, selon le type de dossier que nous avions, les enjeux, les sommes monétaires et le temps dont on disposait. Alors, c'est pour ça que le tribunal administratif du Québec m'avait intéressée comme avocate et que j'y ai siégé pendant 16 ans. J'ai été présidente du tribunal pendant 5 ans, de 2008 à 2013. Alors, oui, Pascal, t'as bien compris.
Et donc, la co-médiation, tu pratiques régulièrement? Tu prends ça comme principe ou quand ça arrange? Parce que c'est aussi une question un peu parfois de, je sais pas, de budget ou de disponibilité ou de plusieurs choses.
Alors, la co-médiation, premièrement, c'est un mode de résolution qui est fondé sur les mêmes principes que la médiation. Je pense que ça, c'est important de le dire. Il y a deux médiateurs qui ont, ou deux ou plus, qui ont des rôles complémentaires. Alors, quand on parle de co-médiation, effectivement, ça peut être de façon ponctuelle dans le cadre d'un dossier où j'agis comme médiateur seul et tout d'un coup, il y a une question un petit peu plus complexe dans un domaine de droit et puis on décide d'avoir un expert neutre qui va venir travailler en co-médiation avec moi. Alors, sans donner d'opinion, il va pouvoir travailler avec les parties avec de l'information. Et ça devient très utile parce que ça coupe au niveau du temps, le délai, les coûts, mais ça répond aux besoins spécifiques d'un dossier. Alors ça peut être une façon de faire de la co-médiation. Une autre façon, ça peut être du début à la fin. Un médiateur, et puis là, je vais parler de mon expérience avec Equanim International. Alors, j'ai le bonheur de travailler avec le groupe Equanim International qui m'a demandé d'être leur représentante au Canada, au Québec. Et donc, on fait de la co-médiation internationale. Et là, ça va être un médiateur du Québec ou du Canada avec un médiateur de la France ou autre pays, évidemment. Mais pour moi, je vais toujours avoir une partie qui a une pied à terre au Québec, évidemment. L'avantage de la co-médiation dans ces circonstances, ben, c'est que vous savez, pour l'avoir vécu, j'ai fait des dossiers en Afrique du Nord, au Maroc, j'ai fait des dossiers de médiation dans différents pays, même si on parle la même langue, le français. Le vocabulaire, même s'il est le même, nos traditions peuvent être différentes. On peut utiliser des syntaxes différentes. Et le sens des mots peut être différent. Je vous donne un exemple. J'ai été dans un dossier où il y avait une dame qui était d'origine allemande et qui, avec une personne qui était française, avait utilisé une expression. Et elle n'avait pas du tout compris de la même façon. Et ça avait créé une bombe dans le cadre de la médiation. Alors, on a pu rectifier le tir rapidement parce qu'on est un tiers neutre et on était comme un prisme pour aider à combler les filtres. Vous savez, les êtres humains, on a des filtres, on a des petites lunettes, puis on entend avec les oreilles et les filtres que nous avons. Même quand on s'entend bien, parfois on a des problèmes de communication. On le sait tous, on a tous vécu des situations comme ça. Alors, imaginez-vous quand il y a un problème, il y a un différent. Ben, à ce moment-là, le filtre, c'est de toujours l'écouter avec le côté le pire de la situation. Alors, la co-médiation, qui implique des médiateurs de différents pays, viennent temporer et calmater et aider à incarner justement les différences culturelles. On crée un espace sécuritaire pour les parties. Ça répond aux attentes des parties. C'est sécurisant d'avoir, si moi je suis du Québec, un médiateur du Québec, si je suis de la France, un médiateur de la France, ou l'inverse. Et ici, c'est pas nécessairement le droit qui va primer, mais la connaissance du milieu et les connaissances des techniques de médiation.
Juste Hélène, le domaine, c'est un domaine spécifique ou c'est tous les domaines confondus ou c'est un domaine spécifique?
Tous les domaines confondus. Et c'est vraiment intéressant parce que, vous savez, quand on parle de la co-médiation, il y a plusieurs techniques et stratégies qu'on peut pas faire si on est seul. Et dans le fond, la médiation, elle augmente, selon moi, l'efficacité de l'ensemble du processus de médiation. On dit toujours, deux têtes valent mieux qu'une, mais ça peut accélérer le déroulement du processus. On peut économiser du temps parce qu'une fois qu'on a fait une rencontre avec des parties, et on prend un espace de temps, une pause, les deux médiateurs peuvent discuter de leur perception de stratégie et enclencher rapidement une discussion et ouvrir sur des sujets qui n'auraient peut-être pas été faits de façon si rapidement si on est seul, parce que ça prend plus de temps. Ça nous permet aussi d'établir si la médiation, c'est le bon processus ou pas. Ça peut nous permettre aussi de mettre fin au processus plus rapidement. Parce que c'est pas vrai qu'on va faire une médiation à tout coup, à tout prix. À un moment donné, il faut voir si les parties sont de bonne foi et si les choses se déroulent selon les règles de l'art. Ça permet, comme je l'ai dit, de favoriser des mises en œuvre de stratégies qui n'auraient pas lieu si on était seul. On peut être aussi un garde-fou de l'impartialité. C'est clair que on est des êtres humains. On se veut neutre et impartial. Mais en même temps, nous sommes des êtres humains, donc on va travailler avec le bagage que nous avons et c'est surtout pour ce bagage-là que les gens nous choisissent comme médiateurs. Donc ça aussi, c'est réconfortant, mais en même temps, d'être deux médiateurs, ça permet cette bel équilibre, ce bel équilibre-là. Quand on fait des dossiers de longue durée, mais ça permet de partager les tâches. Moi, j'aime bien travailler avec un chevalet sur lequel on a un visuel. Et comme ça, on peut capter l'attention et l'écoute active des gens qui sont des auditifs, autant que les gens qui sont des visuels, que les kinesthésiques, ceux qui veulent écrire. Ça, c'est vrai quand on est en personne, mais c'est aussi vrai en team, parce qu'on fait beaucoup de médiation en team, en co-médiation. Et puis, on a maintenant des outils qui nous permettent d'avoir, vous savez, le tableau blanc, d'envoyer des courriels et tout. Alors ça fonctionne bien. La co-médiation peut être intéressante aussi pour quelqu'un qui a moins d'expérience, de travailler avec quelqu'un qui en a plus, ou de travailler avec des gens avec des situations émotives, ça répond aux situations aussi. Alors évidemment, de travailler avec un co-médiateur qu'on connaît puis qui a des valeurs similaires, c'est facilitant. Il est important d'avoir des approches qui se ressemblent. Il y a différentes pratiques de médiation. Alors, il est vrai que si on se connaît déjà puis on a la même approche, que ce soit le storytelling, la négociation raisonnée, principled negotiation, hein, le BATNA et tout, ben ça facilite le travail des co-médiateurs. Alors, ce sont un peu les grands enjeux de ce que je pourrais vous dire sur la co-médiation.
J'ai une question, Hélène. Oui, justement, quand on t'appelle pour une médiation comme ça un peu internationale, est-ce que tu connais, parfois je suppose que tu connais pas l'autre médiateur, vous vous concertez comment avant justement pour vous accorder?
Alors, c'est intéressant. J'ai des dossiers avec qui je travaille régulièrement. On fait beaucoup de projets ensemble. Quand je dis des dossiers, c'est que on est une petite communauté quand même de médiateurs. Et si on m'approche moi et on me propose un dossier, je vais suggérer quelqu'un que je connais. Si c'est le bureau d'Équanime International qui est mandaté, à ce moment-là, c'est eux qui vont choisir les médiateurs. Alors, il se peut que je ne connaisse pas la personne. Mais eux vont identifier des gens qui vont être appropriés selon le type de dossier et ils font le matchmaking. Et je dois dire que mon expérience est positive à cet égard-là. Alors, c'est rapide. On étudie les grands enjeux du dossier, on s'en parle, on prévoit une approche, une stratégie. Et avec beaucoup de délicatesse, on apprend à travailler ensemble rapidement. Et c'est ce qui est important, c'est de valoriser beaucoup la personne avec qui on travaille, parce qu'on devient un exemple de mimétisme pour les parties. Et de faire confiance à la personne avec qui on travaille et de se donner la place mutuellement, de pas vouloir toujours prendre la parole, parce que dans le fond, on apprend beaucoup, beaucoup. C'est un bel acte d'humilité. J'adore travailler avec un co-médiateur parce que j'apprends aussi la façon qu'il voit ou elle voit le dossier, comment elle présente les choses. Alors, c'est vraiment une belle opportunité pour un médiateur de faire une communication.
Est-ce que ça peut avoir un effet miroir sur les parties, le fait qu'il y ait deux partenaires qui collaborent, que par neurones miroirs interposés, ça leur donne envie aussi, quelque part, de mieux collaborer?
Moi, je l'ai vu régulièrement dans mes dossiers quand je le faisais avec ma collègue qui était notaire. On faisait des dossiers et on réalisait que ce soit en relation de travail ou en familial ou des chicanes d'actionnaires, le fait d'intervenir une personne avec l'autre, avec empathie, avec écoute active. Parfois, on faisait la démarche. Ben, écoutez, on vient de vous entendre. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Est-ce que tu voudrais qu'on parle de telle chose? Est-ce qu'on ferait un caucus? Et les gens développent ce mimétisme, cet effet miroir, Christelle, que tu mentionnes. On le voit, on le sent. D'où l'importance aussi de se faire confiance et de pas se confronter. Sauf qu'une fois, je dois vous dire, il est arrivé un moment donné qu'il y avait un petit peu de tension et les parties nous taquinent et disent « Ah, vous aussi, hein, c'est pas toujours aussi. » Alors là, on part à rire, mais il faut pas faire ça. Vous voyez ce que ça fait quand on fait ça? Il y a des tout ça. Il faut toujours tourner un peu de sens du mot. Mais je dois dire que la comédiation, pour l'avoir vécu plusieurs fois dans ma vie, c'est vraiment un processus qui est très riche. Il fonctionne. Il a plusieurs avantages pour les parties. Et je crois que de l'essayer, c'est de l'adopter.
Je crois que c'est important aussi que dans les formations, il y a des modules sur la co-médiation parce qu'il y a, il y a quand même des éléments qui sont importants, que tu vois, comment tu gères avec l'autre, si toi tu as une idée, une hypothèse en tête, tu es en train de poser des questions dans un certain sens et tout d'un coup l'autre, paf, il va dans un autre sens et ça peut être perturbant. Donc je crois que ça, il faut l'essayer un petit peu avant, il faut être formé. Qu'on appelle ça, nous on appelait ça dans notre formation le reflecting team.
Pascal, on t'entend moins bien là tout d'un coup. T'as bougé quelque chose dans ton haut-parleur?
Attends, je monte le volume.
Ah, là, c'est
ah, c'est mieux, voilà.
Merci, en fait, Christian. Oui.
Que j'avais du bruit dehors, c'est pour ça que j'ai un peu redire mon micro. donc, je disais que nous, dans ma formation, on appelait ça le reflecting team, dans ce sens que. En fait, pour donner un exemple, même devant les parties, on peut dire, mais est-ce que toi, tu as une question complémentaire ou, tu vois, en fait, on discute entre nous comme si on était en train de faire presque un peu de l'intervision, mais même devant les parties, juste pour être sûr qu'on aille dans le même sens, qu'on est aligné. Enfin, des petites astuces comme ça, mais ça, il faut le pratiquer avant. Je pense que si on l'a jamais fait, ça peut être un peu difficile de.
En fait, Pascal, t'as raison. On peut pas se lancer nécessairement dans la comédiation à moins d'avoir un peu lu. Avoir un peu de formation dans ça, en effet. Puis, il y a des ouvrages qui existent, qui ont des chapitres. Bon, Christiane Ferrelschult a écrit un livre Il y a un très beau chapitre, c'est la médiation à l'épreuve de la pratique. Elle l'a écrit avec Michel Jodel. Et puis, il y a un très beau chapitre sur la co-médiation dans l'ouvrage. Et puis, dans le guide pratique de la médiation, j'ai écrit un chapitre sur la co-médiation. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit là-dessus. Donc, d'aller sur l'Internet, de lire et de faire des rencontres de stratégie et de surtout de se faire confiance et de valoriser l'autre.
Parce qu'on est d'accord, tu dis co-médiation, ça veut dire les deux médiateurs, médiatrices ensemble, avec les parties, une fois c'est l'un
oui.
qui pose une question, l'autre fois l'autre, on se complète,
oui.
voilà. Okay.
Ah, ça, ce qui est intéressant, merci de poser la question comme ça, parce que ça me fait réfléchir que je veux vous partager avec vous un élément qui est très important pour moi, c'est qu'en co-médiation, les co-médiateurs restent toujours ensemble. Je ne suis pas d'avis qu'il est opportun qu'un médiateur se sépare puis aille travailler avec un groupe, puis l'autre avec l'autre groupe, parce que, à ce moment-là, les médiateurs n'ont pas les mêmes informations. Et donc, c'est un peu faire le pigeon voyageur. Là aussi, les médiateurs ont des filtres, ont des façons de transmettre l'émotion, le non-verbal, qui est très, très important. Donc, ma suggestion et mon historique à moi, c'est quand je fais de la co-médiation, on travaille avec les deux co-médiateurs ensemble. On pourrait compte, inviter un tiers, un expert tiers dans un domaine de droit ou un expert particulier pour encore enrichir le processus et éviter d'aller en arbitrage ou d'aller chercher quelque chose de l'extérieur. Garder l'équipe de co-médiateurs et dans une des étapes du processus, avoir un tiers qui va venir donner de l'information spécifique si c'est nécessaire.
Magnifique. Écoute, merci Hélène. Donc, je crois que c'était encore une fois un partage vraiment inspirant. J'ai aussi beaucoup appris, moi. Et ça, c'est un grand plaisir d'échanger avec toi.
Merci. Merci à vous deux. Vos questions sont très inspirantes. Et puis, j'adore travailler avec des collègues médiateurs comme Christelle et Pascal, comme vous deux. Et on a beaucoup à apprendre au Québec. La médiation est un mouvement continuel. Alors, on modifie nos façons de faire, on s'inspire beaucoup de ce que vous faites aussi et on essaye de prendre les parts and parcels pour améliorer ce que nous faisons ici parce qu'il y a de très, très belles choses que vous faites et puis je suis toujours enchantée de venir toutes les heures. Parfois, je viens très tôt le matin. La semaine dernière, j'étais aux petites heures du matin pour faire une conférence en France, mais j'adore ça, je suis vraiment passionnée de la médiation. Et je sais que je travaille avec des gens qui le sont comme vous et qui souhaitent...
Moi, ça m'a donné plein d'idées pour des articles pour le prochain intermédiaire.
Ah, magnifique, magnifique. C'est une très belle revue que j'aime beaucoup lire.
Merci beaucoup.
D'ailleurs, nous
le sommet à travers les vidéos, c'est très enrichissant aussi pour avoir des nouvelles idées, des nouvelles pistes et de rencontrer des interlocuteurs. C'est super. Merci beaucoup.
Merci à vous de faire ces vidéos. Merci beaucoup.
Merci Hélène. Merci Christelle. Merci. Ciao, ciao.
Pour ne rien manquer et pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne et partagez nos podcasts.